BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à Aymeric Lang pour Erasmus Gestion. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Guillaume.
Eric Blaine aussi nous accompagne depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Eric. Et ravi également de vous retrouver. Oh, vous faites la tête, hein, le PSG a perdu hier soir, Aymeric. Oui, je vois. Oui. Et en face de vous, figurez-vous, vous êtes en duo ce soir avec Eric Blaine. C'est lui qui a acheté ce soir Borussia Dortmund en bourse. Le titre Borussia Dortmund, figurez-vous que le club qui a battu hier soir le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finale aller, hein, il y a encore un espoir pour le retour, eh bien le titre de Borussia Dortmund a progressé ce soir de 4,5% après cette belle victoire. Désolé, Aymeric.
Aucun problème pour moi. Ouais.
Eric, fan de foot, c'est vous qui avez acheté le titre Borussia Dortmund aujourd'hui ?
Alors, je l'ai regardé monter et je me suis dit, mais ils sont cinglés quand même parce qu'il y a, le match retour et on est quand même avantagés. Donc, je suis pas sûr que ce soit moi qui ai acheté. Donc, j'ai plutôt regardé les choses et je suis dubitatif.
Attention, retour de flamme pour ceux qui ont acheté Borussia Dortmund aujourd'hui. Oui, le match retour, c'est la semaine prochaine, effectivement. En tout cas, ce soir, 4% de hausse pour cette valeur. Bon, trêve de plaisanterie, messieurs. On est ravis de vous retrouver. Première séance du mois de mai, après un mois d'avril quand même pluvieux en bourse. Le CAC 40 avait perdu 2,7% en avril. On se disait, ben voilà, le mois de mai arrive, fais ce qu'il te plaît. Pas du tout. Encore en baisse, le CAC 40 pour entamer le mois de mai. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans le marché? On voit par exemple l'intelligence artificielle, ça marche un peu moins. Même l'anti-obésité, Novo Nordisk relève encore ses prévisions quand même. Le titre recule aujourd'hui, Novo Nordisk, moins 2%. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans ce qui faisait la magie du marché en début d'année?
Je pense que le marché a quand même très bien débuté. On a quand même une belle hausse sur les premiers mois dans un contexte de hausse des taux. Il y a quand même des surprises négatives sur l'inflation. Et pourtant, les marchés continuent de monter. Donc, je trouve que c'est plutôt une normalisation. Je vois rien de très inquiétant dans cette consolidation que je trouve assez saine. Alors effectivement, il y a eu quelques déceptions sur l'intelligence artificielle, notamment les résultats d'AMD, mais ça faisait suite à une euphorie sur le secteur. Donc, je vois rien de dramatique à cette consolidation et rien de structurel et pas de gros changements à mes yeux.
Eric, Novo Nordisk ce soir perd plus de 2% alors que le groupe annonce de beaux résultats quand même et relève encore ses prévisions. Et pourtant, on est dans l'anti-obésité et là, ça semble plus autant marcher. Alors, Eli Lilly qui avait publié aussi il y a deux jours, là, ça marchait pour Eli Lilly. Dès qu'on est aux États-Unis, on parvient à mieux se valoriser. En revanche, Novo Nordisk en Europe, ben voilà, aggrave son petit retard de valorisation sur Eli Lilly. Comment est-ce que vous regardez la réaction du marché à la publie de Novo Nordisk aujourd'hui, Eric?
Moi, je ne crois pas très inquiet, en fait, hein, quand même. On a un vrai succès des traitements anti-obésité, quand même. Ça ne se dément toujours pas. Les chiffres sont quand même bons, au-dessus des attentes. Alors, le marché est peut-être un petit peu déçu, mais quand même, ça, le sujet, il n'est pas la demande, hein, il est vraiment l'offre. C'est-à-dire, est-ce que les capacités de production augmentent? Est-ce qu'elles augmentent assez vite vis-à-vis de la demande? Et moi, entre Eli Lilly et Novo Nordisk, les différences, elles sont assez intéressantes. Novo Nordisk, c'est un pur player de l'obésité. Donc, on est sur vraiment 100% focalisé là-dessus. Et Eli Lilly, non, c'est plus diversifié. Mais par contre, c'est un groupe américain avec sa puissance de distribution et c'est un produit un peu plus efficace. Alors, est-ce qu'on veut être sur celui qui est le pure player ou est-ce qu'on veut être sur celui qui a l'avantage américain? Bon, le marché a décidé sur ses publications d'être à l'avantage de Eli Lilly. Perso, je pense que Novo Nordisk c'est très bien aussi pour celui qui investit en Europe. Hein, pas de sujet
particulier. Ils sont peut-être un peu.
C'est pas étonnant de consolider un peu.
Et là, Lilly peut-être un peu mieux diversifié. Enfin, comment est-ce que vous interprétez le fait que Novo Nordisk ce soir recule, Aymeric?
Il y a eu aussi une inquiétude sur l'aspect prix de leurs médicaments anti-obésité. Ça, ils se sont montrés assez rassurants pendant le call. Et d'ailleurs, le titre s'est bien repris pendant l'appel téléphonique qui a fait suite à la publication. La baisse des prix vient simplement compenser la très forte hausse des volumes, donc il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Quand même, il y a des bonnes nouvelles à venir potentielles pour Novo Nordisk, c'est ça qui nous rend assez positif sur la valeur. Il y a notamment le possible traité anti-obésité aux États-Unis qui peut être un gros changement pour la société, ça peut lancer une grosse dynamique pour Novo Nordisk. Et l'autre élément, c'est aussi l'utilisation de leurs médicaments pour le traitement du syndrome Nash, la maladie du foie gras. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui pourraient être validées dans les prochains mois et ça pourrait redonner une bonne tendance au titre. Et en valorisation, le retard est quand même assez important. On est quasiment du simple au double en multiples résultats opérationnels. Donc c'est pour ça que nous, on reste très positif sur Novo Nordisk.
Même si, effectivement, petit retard de valorisation désormais qui tend à s'accroître par rapport à Eli Lilly, mais aussi peut-être un portefeuille de médicaments sur Eli Lilly un peu plus dynamique, quoi, on va le dire comme
plus
ça.
Diversifié.
Bon, en tout cas, ce soir, parmi les valeurs qui se distinguent, on a démarré par une baisse. Enfin non, pardon, le Borussia Dortmund a progressé, on le rappelle quand même encore. Plus 3,5% ce soir, Borussia Dortmund sur le marché allemand. Mais parmi les valeurs qui se distinguent, un peu plus grandes quand même, Téléperformance. le titre Téléperformance ce soir gagne quasiment 14% après sa publication. Alors, on le disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle en bourse, ça fait un peu moins magique, quoi. Ça marche un peu moins qu'en début d'année. Et puis, les valeurs qui avaient beaucoup pâti de l'irruption de l'intelligence artificielle tendent à remonter. En tout cas, aujourd'hui, Téléperformance gagne 14%. Est-ce que c'est la fin de l'enfer, on va dire, pour ce titre Téléperformance, Aymeric?
C'est une bonne nouvelle. La première chose, c'est que d'un point de vue opérationnel, ça tient. Ils ont réussi à faire de la croissance sur un effet de base très compliqué, alors que le marché attendait une décroissance. Les attentes sont très faibles et le marché attend moins que ce que le management a donné comme objectif pour l'année. Donc vraiment, il y a très très peu d'attentes sur ce titre-là, et c'est pour ça que la moindre bonne nouvelle est tout de suite sanctionnée ou récompensée par une forte hausse. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles structurelles qui tend à complètement rassurer sur le risque de disruption de leur activité. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on reste neutre, nous, sur le dossier. Mais c'est clair que d'un point de vue valorisation, il n'y a plus grand-chose dans le titre. Donc chaque bonne nouvelle est bien récompensée. Et d'un point de vue opérationnel, ça tient, ça résiste et ils sont capables de faire de la croissance. Donc ça, c'est assez rassurant également.
Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval. Jean-Louis, d'un point de vue technique, hein, vous regardez vraiment le marché sous l'angle technique. Jean-Louis, plus 14% quasiment en clôture. Est-ce que ça peut néanmoins débloquer, coincer ce titre Téléperformance pour la suite?
Alors pour l'instant, non. Ça envoie un message plutôt positif, bien évidemment. Mais en même temps, cette volatilité extrêmement forte, c'est pas très sain. C'est jamais une bonne chose de voir un titre gagner 19, en perdre 10, en remonter 2. Vous voyez, d'abord, ça prouve que les avis sont divergents. Et on peut dire que la publication, c'est sûr qu'elle a rassuré les plus pessimistes. Mais elle n'est pas suffisamment bonne pour permettre aux autres de se dire bon bah il faut y aller. Enfin déjà les optimistes qu'on a un peu, bon ils en ont un peu, mais est-ce qu'ils renforcent? Je pense pas pour l'instant. Et voilà, on est dans l'attente. Et sur le plan technique, c'est le message que ça envoie. Une digestion est nécessaire, plus longue. Et moi sur le plan purement technique, il faudrait que ça franchisse 110. Alors après, on verra si ça dure un certain temps. Peut-être qu'on pourra baisser ce niveau de déclenchement. Mais le gap du 7 mars, après les nombreux précédents, il fait mal. Il y a eu énormément de volume à l'époque, même si là, on revient sur un volume assez intéressant. Mais il fait même pas la moitié de celui du 7 mars. Ah oui. Donc voilà, c'est trop tôt pour y retourner immédiatement. Maintenant, le risque, je pense pas qu'il soit très important. Mais sur le plan purement technique, non, c'est trop tôt. C'est le genre de situation où l'analyse technique va plutôt nous dire, n'y va pas tout de suite. Voilà, c'est pas vend, c'est pas achète, c'est faut pas y aller maintenant. C'est pas le bon market timing.
Ne pas céder aux sirènes, même si ce titre a bien progressé ce soir, plus 13,8% Téléperformance. L'autre mal-aimé qui ce soir rebondit et revient à la surface, c'est Worldline. Worldline gagne aussi 10%. Là aussi, c'est la publication. Elle est saluée par le marché et notamment les services aux commerçants de Worldline qui retrouvent de la dynamique. Eric, est-ce que pour le coup, sur Worldline, vous êtes plus positif? Est-ce que vous dites que ce plus 10 peut déclencher une nouvelle phase de bourse peut-être plus favorable, Eric?
Moi, je reste quand même sur le sujet de la gouvernance sur Worldline. Hein. On a eu quand même des gros mouvements qui ont été annoncés au sein du conseil d'administration, avec donc un nouveau président, de nouveaux membres, des démissions des anciens membres, un resserrement du conseil d'administration. Donc, au-delà des résultats du trimestre, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est quand même quelle va être la stratégie de Worldline une fois le conseil d'administration donc en place, c'est-à-dire à partir du 13 juin. Quelles seront les relations entre l'actuel directeur général, donc Gilles Grapinet, et ce nouveau président? Est-ce qu'il n'y aura pas des tensions ou pas? Donc je pense que, bon, tant mieux pour les résultats, c'est super. Le titre est au tapis, ça vaut vraiment 5 fois les résultats, donc c'est pas illogique qu'il rebondisse. Mais le sujet de gouvernance domine pour moi, et donc je reste à l'écart du titre, en attendant que ça soit plus clair sur la stratégie, et puis sur les hommes en place, parce que c'est ça qui fait une boîte, hein. C'est quand même des hommes qui sont en place. Et là, j'ai l'impression que Gilles Grapinet était quand même pas très bien suite aux dernières publications, à l'évolution du titre. Et ça me gêne de pas savoir. Donc je reste à l'écart pour l'instant.
On vous rappelle la clôture ce soir sur CAC 40, moins 0,8%. On met en danger les 7914 ce soir en clôture. On évoquait aussi l'avenir de Total Energy, peut-être à Wall Street. On verra. On en parlait avec François Dossou pour Siena Gestion. Si vous avez raté le direct, c'était dans le club, au cœur du club tout à l'heure. Mais vous pouvez retrouver le replay sur notre application BFM Business. Vous allez dans les replays et dans le club de BFM Bourse. Les banques, demain, Crédit Agricole et Société Générale vont annoncer leurs résultats. On sent un trend plus favorable désormais sur le secteur bancaire. On voit même une concentration d'ailleurs du secteur en Espagne. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de ce secteur désormais, Aymeric?
Les banques ont très bien performé depuis maintenant quasiment 3 ans. C'est un des tout meilleurs secteurs sur la durée. Ils ont bénéficié d'une grosse... ça a été les premiers bénéficiaires de la hausse des taux qu'on a connue là, ces derniers trimestres. Nous, c'est un secteur sur lequel on a structurellement du mal parce que c'est dur d'avoir un véritable avantage concurrentiel dans ce secteur. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été neutre prudent sur le secteur. Là, l'autre élément qui va jouer en défaveur, c'est que l'effet très positif de la hausse des taux va s'estomper dans les prochains trimestres. Donc ça nous rend un peu plus prudent. Mais après, c'est vrai que les valorisations restent raisonnables. On le voit avec cette acquisition avec une prime de 30% en Espagne. Mm-hmm. Donc les valorisations restent raisonnables. Il y avait aussi le plan de retour à l'actionnaire de 2 milliards d'euros qui a été mentionné tout à l'heure pour ING. Tout ça, c'est des signes que il y a beaucoup de trésorerie qui a été générée, des valorisations qui restent correctes. Donc voilà, avis plutôt mitigé sur le secteur.
Oui, en ce qui me concerne. Parce que ça a déjà bien rebondi.
Parce que ça a bien rebondi.
Les valos restent basses.
Structurellement, les valos sont basses, mais structurellement.
Mais à 7 en moyenne de PE, 7, pas.
Oui, mais on était plus bas il y a quelques temps, donc il y a eu du re-rating. Et structurellement, c'est un secteur qui a du mal à créer de la valeur.
Oui, alors on voit début de mouvement de concentration en Espagne, BBVA et Sabadell, l'ensemble aurait plus d'1 milliard d'euros d'actifs quand même. De votre côté, Eric, ce secteur bancaire qui tente à surperformer désormais de plus en plus, demain, Société Générale et Crédit Agricole vont publier. Comment est-ce que vous voyez ce secteur?
Moi, je pense que ça va rester bien orienté. Je pense que Crédit Agricole devrait publier correctement. Toutes les expos d'Europe du Sud ont été bonnes jusqu'à maintenant. La BNP a bien publié. Donc, je pense que ça devrait bien se passer pour Crédit Agricole. Il y a toujours un point d'interrogation sur la Société Générale, évidemment, puisque même si l'environnement est favorable, depuis le Capital Market Day de septembre 2023, le nouveau directeur général avait douché les esprits. Et pour l'instant, on n'a pas eu une forte amélioration. Est-ce que ce premier trimestre va être le point bas? Certainement. Est-ce que le marché va bien réagir? C'est à voir. En tout cas, il y a eu des mouvements. Donc, il y a eu des cessions qui ont été annoncées. Ça, c'est un point important. Ça fait remonter le corps capital. Il y a dans le réseau à savoir si on a les premiers effets bénéfiques d'un réseau restructuré avec le Crédit du Nord et la Société Générale. On a aussi savoir s'ils ont baissé les coûts, si le risque a été bien géré. Et ce qui est sûr, c'est que la banque, elle vaut 0,3 fois sa book value, 5 fois de PER. Mm-hmm. Et donc, au fur et à mesure que le temps va passer, la Société Générale va rentrer dans une dynamique favorable. Alors, est-ce que c'est à ce premier trimestre ou est-ce que c'est ensuite? Moi, j'ai pris quelques positions optimistes sur cette publication et j'espère que ça portera ses fruits.
Merci à tous les deux. Eric Blaine, Swiss Life Banque Privée, Aymeric Lang pour Erasmus Gestion. Merci d'avoir participé et un grand merci aussi à Jean-Louis Cussac qui nous accompagnait depuis Perceval.